non, ça va pas du tout, coupez.
Arrête ton cinéma.
Il y avait des plaines et plein de jolis coins tranquilles et isolés. Et en ce temps-là, les fleurs ne poussaient pas uniquement sur ces horribles dômes mis sur orbite à des millions de kilomètres dans l'espace.
On sait que la plupart du temps, les œuvres d'anticipation interrogent surtout le présent et les films de science-fiction vont chercher parfois à l'autre bout de la galaxie des réponses à des questions bien terrestres. Il était donc normal que les problèmes écologiques s'exportent aussi au-delà de notre atmosphère.
Sur la Terre, nous avons détruit toutes les forêts de ce qui était autrefois notre belle nation.
Le film spatial le plus ouvertement écolo reste sûrement Silent Running, sorti en 1972. Le film débute avec des plans d'escargots, de fleurs, de lapins et d'un homme aux cheveux longs se baignant tout nu dans un petit coin de nature. Mais ne nous trompons pas, cet Éden n'est pas la Terre, mais une sorte d'arche de Noé végétale et spatiale. À cause d'une Terre trop polluée, les hommes n'ont plus préservé les espèces végétales que dans des grandes serres à bord des vaisseaux.
Que Dieu bénisse ces jardins et ces hommes courageux qui, dans les ténèbres du cosmos, veillent sur les derniers vestiges du monde végétal.
Et à l'exception de Silent Running, les films spatiaux des années 70 sont plutôt conquérants et imaginent la colonisation de l'espace comme une chance. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Les débris spatiaux provoquent un terrible accident dans Gravity. Les hommes ne quittent la Terre que contraints, forcés et le cœur lourd, comme dans Interstellar. Et dans la guerre contre les extraterrestres, les hommes tiennent souvent le mauvais rôle, comme dans Avatar.
On a construit plusieurs écoles, on leur a appris notre langue, mais après des années passées sur le terrain, nos relations avec eux n'ont jamais été aussi mauvaises.
Oui, quand on utilise des mitrailleuses contre eux, c'est tout à fait normal.
Ouais, venez voir.
Avatar, c'est clairement un western. Pendant longtemps, au cinéma, les cow-boys tirent à vue sur les Indiens pour le plus grand plaisir des spectateurs. Et puis, heureusement, les Indiens ont commencé à avoir une autre place dans les histoires et dans l'histoire américaine. Comme un ultime repenti, le dernier western d'ailleurs de John Ford s'appelle Les Cheyennes. Et il prend enfin le point de vue des Indiens. Et Avatar, eh bien, c'est la même histoire. Les méchants militaires capitalistes pollueurs contre les bons sauvages.
Ok. Écoutez. Le fait de tuer des indigènes est mal vu. Mais il y a une chose que les actionnaires craignent plus qu'une mauvaise campagne de presse. C'est un bilan financier en déficit. C'est pas moi qui fixe les règles.
Dans la science-fiction, les peuples moins évolués technologiquement sont souvent les plus gentils. Rappelez-vous des Ewoks de Star Wars, ces petits nounours trop mignons qui combattent au lance-pierre les méchants soldats de l'Empire. Mais chez George Lucas, c'est plutôt le combat des enfants contre les adultes qu'il faut y voir. Alors que chez James Cameron, le combat devient plus politique. Les extraterrestres vivant simplement et en harmonie avec la nature contre les humains avides et consommateurs. On retrouve exactement cette même vision d'ailleurs dans le Valérian de Luc Besson.
Venga, etano matakayoe, luyuset.
Si ce n'est pas le dernier ni le premier à prendre le parti des Indiens, Avatar est le film spatial qui marque le plus ce parti pris. Mais c'est aussi un paradoxe. Avatar a été présenté comme un film à la pointe de la technologie informatique et cinématographique, promouvant une 3D nouvelle génération, pleine d'espoir visuel et économique. Dans son mode de production, on est loin donc de l'artisanat du cinéma et des Indiens de l'espace.
Eh ben ça alors, j'ai l'impression que vous n'avez pas fumé que la moquette là-haut. Hein. Tout ça pour quelques arbres à la con.